Bonjour et bienvenue sur Radio Muge. Nous sommes en direct de l'Échappée Belle pour le festival Les Désirables. Nous avons à notre table donc Alexis de la librairie de la Petite Égypte et Simone Dweck, voilà.
Auteur donc d'un livre L'acte radiophonique dont elle va nous parler tout de suite. Donc on va laisser Alexis prendre le relais par rapport au livre de Simone. On te laisse mener la barque.
Eh bien, bonjour, rebonjour Florian, rebonjour Paul et rebonjour Simone Dweck. Je suis très heureux de pouvoir présenter cette rencontre. Donc un grand merci d'abord à la librairie L'Échappée Belle, voilà, qui nous fait l'amitié de nous accueillir dans ces très beaux murs pour participer à ces journées désirables. Donc voilà, donc deuxième session de rencontre avec Simone Dweck qui signe chez Créafis. Un livre merveilleux qui s'appelle L'acte radiophonique, une esthétique du documentaire. Donc Simone Dweck nous invite à naviguer dans un territoire très vaste, qui est celui du son, qui est celui du sonore, de l'écriture du sonore. Alors quand on parle de son, effectivement, ça semble illimité, disons, comme un vaste océan, mais il y a quand même des outils, il y a des embarcations, il y a la radio, voilà, qui opère comme ce livre opère dans cette matière de travail, qui opère des forages très précis, donc dans un territoire très vaste. Et effectivement, il y a une esthétique, il y a une poétique, il y a une écriture du documentaire, il y a aussi une écriture sur cette écriture. Et on peut tout de suite dire que c'est un livre extrêmement bien écrit et qui effectivement est dans l'analyse, qui est dans la narration d'épisodes de travail, de saisie, de son. Alors une donnée fondamentale dans le son et qui nous préoccupe et qui vous préoccupe dans ce que vous faites depuis quelques dizaines d'années à France Culture, où vous êtes productrice, c'est effectivement que le micro, au contraire de l'oreille, le micro ne sélectionne pas. Là, on est autour d'un dispositif technique assez remarquable, composé de micros sur pied et sur une table de mixage. Il y a un petit ordinateur portable qui est le terminal qui reçoit toute la matière qui va être récoltée dans la journée ce week-end. Et effectivement, l'oreille humaine sélectionne naturellement. Alors, selon plusieurs critères, selon l'attente, par exemple, il y a Véronique Hirsin ce matin qui avait très envie d'un steak saignant. Donc, je pense que ça va largement informer son écoute de ce matin. Moi, je lis en ce moment à la crèmerie Lou Pastrou, qui est juste à côté de la librairie, à saisir raclette lait cru, 9,95 €. Ça fait très envie. Donc, il y a ce genre de choses. Il y a aussi les situations de communication dans lesquelles on est prise. Et il y a tout un tas de choses. Effectivement, le bruit de la rue, on a entendu quelques scooters passer. Voilà, tout ça informe notre écoute. Et il y a fort à parier qu'en ce moment, on n'entend pas la même chose. Voilà. Et le micro, effectivement, on va travailler avec, comme avec un stylo. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Simone Dweck, ce point de départ, en fait, cette écoute, cette disponibilité aux choses qui vous entourent et la façon de la saisir, ça commence comment ?
Ça commence de plein de manières différentes. Donc, effectivement, j'ai réécouté tout récemment un dialogue absolument merveilleux entre François Billedou et Pierre Schaeffer. Et c'était d'ailleurs une émission qui s'appelait Dialogue, dans les années 70, même en 1970, sur France Culture. Et ce dialogue-là commençait par cette magnifique question de Billedou, et lui dit « Combien as-tu d'oreilles ?» Et Pierre Schaeffer lui répond « Bien sûr, j'aurais tendance à dire que j'en ai deux, mais en fait, j'en ai quatre. » Non pas à l'oreille interne et l'oreille externe, mais d'une certaine manière, c'est ça quand même. Et il prend cet exemple de la conque qu'on met à l'oreille, en disant « Quand on met le coquillage à l'oreille, on dit qu'on entend la mer. En fait, bien sûr, c'est pas la mer qu'on entend, c'est le flux du sang à l'intérieur de notre corps et de notre cerveau. Et c'est pour dire qu'il y a effectivement une oreille extérieure qui saisit ce qui nous entoure, et puis cette oreille intérieure qui est celle, en fait, qui, je crois, transforme ce que nous entendons à l'intérieur. Et c'est à travers cette transformation, elle montre que, je crois, se joue l'écriture du documentaire. Ça veut dire que là, autour de moi, j'entends la rue de Sète, j'entends des voix, j'entends beaucoup d'éléments comme Alexis, tu regardais en face le, voilà, la raclette.
À saisir.
À saisir, la raclette ou les crues. J'entends beaucoup de choses et puis après je vais peut-être penser à construire toutes ces choses différemment avec ce que j'appelle l'écriture radiophonique. Alors l'écriture, avec quoi j'écris en radio, parce que par exemple j'écris donc avec des sons, avec des voix. Les voix, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que elles nous révèlent des univers entiers. Enfin, quand on entend parler les personnes qui sont face à nous, jamais personne ne dira de la même façon la même chose. Donc, ces voix sont des révélatrices. On a des sons, on a des bruits, on a des musiques, on a des textes. Enfin, on a tout ce matériau qui est en même temps un matériau très, très simple. Hein, c'est pas, y a rien d'extraordinaire, et pourtant à partir de là, on peut explorer, traverser des portes et construire effectivement une écriture. Et d'ailleurs, ce livre, je me souviens très très bien que quand j'ai commencé à en parler à plusieurs personnes, et notamment peut-être à des gens qui faisaient du son et qui éditaient aussi quelques livres sur le son, on m'a dit mais tu peux pas faire ça, tu peux pas écrire un livre sans les sons. Il faut absolument que tu fasses des liens sur les sons dont tu passes, etc. J'ai dit, mais moi, je veux pas. Moi, ma démarche, mon idée, c'est de pouvoir écrire avec des mots ce que j'ai fait avec des sons. Et de, à travers ces mots, pouvoir dire quelles aventures de l'esprit, finalement, on traverse pour arriver à un documentaire radiophonique, puisque c'est plus du documentaire dont il est question dans ce livre, puisque c'est ma pratique, c'est celle du documentaire.
C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des exercices de transposition dans l'espace radiophonique de manifestations sonores. Il y a une citation très très intéressante. Alors, on cite pas souvent Malraux, mais il y a une chose qui est très. Alors, je pourrais pas imiter la voix de Malraux, c'est dommage, c'est très drôle quand même. Mais il dit quelque part, et ce quelque part est cité à la fin de la citation. J'ai compté jadis l'aventure d'un homme qui ne reconnaît pas sa voix qu'on vient d'enregistrer, parce qu'il l'entend pour la première fois à travers ses oreilles et non plus à travers sa gorge, et parce que notre gorge seule nous transmet cette voix intérieure. J'ai appelé ce livre La condition humaine. Et il y a quelque chose effectivement qui est très net dans cette citation, c'est le rapport à l'autre et à l'étrangeté à soi-même, en fait. Dans votre pratique, c'est quelque chose qui est assez fondateur.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que cette phrase de Malraux me rappelle exactement ce que je viens de dire de Schaeffer, qui parle de cette oreille extérieure et de cette oreille intérieure, effectivement. Et oui, et c'est une transposition permanente, je pense, du réel. Et là, cette transposition se fait alors beaucoup à travers ce que j'appelle cette écriture radiophonique, et l'écriture, elle se fait à travers le montage. Finalement, c'est toute l'opération du montage qui consiste à recréer le réel, à transformer. Enfin, quand je parle d'acte radiophonique, je veux dire que je rends compte d'un fait sensible, d'un fait qui appartient au réel, mais je dépasse le stade de la pure information, de la simple information, et je fais que ce fait-là devient un objet esthétique. Tout ça se fait évidemment avec l'écriture du montage. Parler, par exemple, de l'écriture du documentaire, ce n'est pas parler de la présentation, par exemple, d'un documentaire par écrit, comme on est souvent amené à le faire. Il faut faire un projet, il faut écrire quelque chose. Très bien, on peut écrire. Écrire un scénario documentaire, ça m'est très difficile, parce qu'il y a effectivement un projet, un point de vue de départ, le rôle de l'auteur, donc, qui est très important. Et à partir de ce point de vue de départ, on va faire des enregistrements, parce qu'on a pensé à des enregistrements, des sons se présentent, des situations se présentent, et c'est à partir de ce point de départ que tout d'un coup, on va basculer dans quelque chose qui est plus de l'ordre du fait sensible et de l'objet esthétique.
Alors, quelque chose qui revient assez souvent dans le livre et qui lui donne son rythme aussi, et qui lui donne sa sensibilité et cette disponibilité dont on a évoqué au début de cette rencontre, c'est effectivement la sensibilité à ce qui advient. ce qui advient, effectivement, la surprise. On peut pas écrire, effectivement, en amont ce qui va se passer. Et du coup, mais il faut créer les conditions de ce qui advient. Et c'est ça qui court tout au long du livre et qui lui donne aussi son épaisseur, son
oui.
intérêt.
Oui, alors ce qui advient soit dans la situation d'enregistrement, soit effectivement dans la fabrication. Comment on pense cette fabrication ? Je donne un exemple de ce qui advient à propos d'une émission qui s'appelle Dog Attitude, qui a été fait par Anita Castiel, et dans ce documentaire donc de Surpris par la nuit, elle se rend dans une église où on entend dire une messe, bon, on sait pas trop de quoi il s'agit, et puis on entend que le curé est en train de parler de Notre-Dame des animaux, ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce qui advient pendant ça ? Il y a des gens qui applaudissent parce qu'ils saluent la présence d'une actrice très connue. Les gens applaudissent et tout d'un coup, il y a un déchaînement d'aboiement parce que finalement, tous les gens sont venus avec leurs chiens à cette messe qui est la messe des animaux. Voilà l'exemple extraordinaire de ce qui advient. Vraiment, elle n'avait pas du tout attendu ça, la productrice et la chargée de réalisation. Elles se sont saisies de ce moment et c'est à hurler de rire parce que voilà ce qui advient. Après, il y a ce qui advient quand on pense dans la fabrication d'une émission. Alors, ce qui advient, c'est je fais par exemple une émission sur Fra Angelico. Donc peintre du Quattrocento et italien, et j'ai pas de frais de mission, c'est pas possible, ils veulent plus payer, bon ça devient bref. Donc on va pas en Italie, mais on a besoin de se mettre dans une situation. Enfin moi, pour ma part en tout cas, j'aime me mettre dans une certaine situation, dans une certaine atmosphère, et je cherche. Donc, Fra Angelico était un dominicain et il a fait son apprentissage dans un couvent dominicain qui se trouve à Fiesole, sur les collines de Florence. On va pas à Fiesole. Et je cherche, je regarde, je me dis, tiens, peut-être qu'il y a un... Et je trouve un couvent dominicain à Paris, en plein Paris, qui est évidemment pas si beau que celui de Fiesole, qui est quelque chose d'une architecture du 19e siècle. Mais, ce qui advient, c'est que je trouve ce lieu, que je demande à aller dans ce lieu pour enregistrer, qu'on m'y accueille évidemment à bras ouverts. Et non seulement ça, encore une chose qui advient, c'est que un des frères dominicains qui vit dans ce couvent et qui travaille dans ce couvent est peintre. Et c'est un peintre qui adore Fra Angelico. Et dont le modèle est Fra Angelico. Et qui peint, n'a rien à voir, ce qu'il peint n'a rien à voir avec ce que peint Fra Angelico. Et
si vous permettez, j'aimerais bien justement lire un extrait de ce documentaire qui est magnifique. Donc, ce documentaire s'inscrit dans le cycle Une vie, une œuvre, qui avait été initié par Pierre Descartes.
Une vie, une œuvre, c'était Michel Cazenave.
Ah, c'est Michel Cazenave, pardon.
Voilà. Ouais. Pierre Descartes s'occupait plutôt des arts, les arts et les gens. Quoi.
Des arts et des gens.
C'était les arts, oui.
Et c'est un passage magnifique, voilà, qui témoigne. Il y a beaucoup d'extraits dans le livre, effectivement, aussi de documentaires. Voilà, je vous donne cette lecture. Si j'étais botaniste, je louerais la précision du geste de Fra Angelico quand il peint la flore, la découpe rigoureuse des petits œillets, le galbe des lys, la forme exacte des feuillages, le moutonnement des roses. Je ne suis pas botaniste et mon regard s'attache à ces détails. Me parviennent aussi l'odeur fine des œillets sauvages, le parfum lourd des lys, le jus des grenades mûres qui éclatent. Fra Angelico, grand observateur de la nature, rappelle ainsi son talent de miniaturiste qu'il exerçait à l'origine. Il nous rappelle aussi le discours de Thomas d'Aquin, voyageant dans la nature, l'humanité telle qu'elle est née. Ainsi, Fra Angelico place l'homme dans la nature. Mais le miniaturiste sait peindre aussi avec un large souffle. Du pistil de la fleur au lointain des collines, l'œil découvre la perspective du paradis, ou bien celle des villes, des châteaux et des tours. Alors effectivement, c'est un passage qui illustre, qui prolonge un développement sur la transposition, et à mon sens, ce passage dit aussi deux choses, c'est-à-dire dit l'excès du sonore par rapport au visuel, c'est-à-dire qu'on va toucher à la matérialité de certains objets qui ne sont pas rendus visuellement, mais dit aussi, et ça fait un lien assez naturel avec la discussion qui précédait sur faire société et faire lien, c'est-à-dire que c'est un art de la relation, la radio.
Ah, totalement, totalement. Alors là, ce texte-là que vous venez de lire, Alexis, c'est comme ça que j'ai introduit l'émission.
C'est l'argument.
C'était mon chapeau, en fait. Oui, oui. Parce qu'à chaque fois que je fais un documentaire, j'aime bien écrire. Je trouve que la notion écrite, justement, de l'écriture est très importante pour moi. Et au lieu de faire un chapeau en donnant, je sais pas quoi, il est né à tel moment, ou il est mort à tel moment, ou il a fait ci, ou il a fait ça, je préfère donner une impression très subjective, finalement, de ce que j'ai envie de donner de ce peintre-là, en l'occurrence, enfin, et du sujet que je traite en général.
C'est-à-dire subjectivité, donc un point de vue situé et une prise de position.
Ouais.
Donc la façon de tendre le micro, c'est aussi une façon de situer par rapport à son objet et de prendre position dans un espace, dans une société, dans certains rapports de force aussi, certains... rapport politique.
Oui, absolument. Alors là, par exemple, puisque vous parlez de rapport politique, quand on fait une enquête plus journalistique, comme c'est arrivé, ça m'est arrivé peut-être plus rarement de faire des enquêtes journalistiques, mais voilà, quand je fais une émission sur les déchets nucléaires, ça date d'il y a peut-être une quinzaine d'années. Là, oui, c'est une façon de tendre le micro politique, de choisir des interlocuteurs en ne négligeant pas des points de vue, hein, en essayant de faire parler tout le monde, mais de tendre un micro, effectivement, en essayant, pas de piéger, parce que bon, c'est pas mon truc, mais de toute façon, en essayant quand même de faire dire à des gens une chose qu'on a dans la tête, parce que j'ai quand même dans la tête, bon, moi, voilà, je fais cette émission en me disant, mais je me souviens que le rédacteur, oui, enfin, celui qui était le coordonnateur, je crois, de l'émission, me dit, mais je vais lui proposer le sujet, il me dit, ouais, c'est bien, mais alors, c'est quoi? T'as peur? J'ai dit, oui, j'ai peur, bien sûr. Et donc, c'est ça le moteur, finalement, de tous les enregistrements, voilà, qu'ils soient de ceux qui disent, mais non, il y a un circulaire, il n'y a rien à voir, tout va bien avec les déchets nucléaires, et de ceux qui, au contraire, les combattent et voilà, et s'insurgent, et les villages le village de Bure qui s'est insurgé à l'époque contre l'installation d'un laboratoire, soi-disant un laboratoire d'essai de stockage en profondeur, et c'était pas encore construit à l'époque. Ces gens étaient très militants et étaient dans l'émission. Aujourd'hui, le labo est là et on a vu qu'il y avait des failles, hein, je crois, hein, dans ce laboratoire. Donc. Enfin, ce laboratoire.
Alors là, du coup, effectivement, c'était justement là où je voulais un petit peu en venir, c'est la question de l'écologie, en fait, par rapport au sonore. Alors, il y a quelqu'un de très intéressant qui a publié un livre à la découverte, c'est Juliette Volkler, l'orchestration du quotidien, design sonore et écoute au XXe siècle. Et effectivement, elle parle de l'échantillonnage et de la standardisation du monde via, effectivement, l'extraction sonore. Et donc là, effectivement, on est dans un vocabulaire industriel et d'extraction. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles questions qui s'imposent de plus en plus à la création radiophonique, c'est-à-dire comment politiquement on se situe par rapport effectivement aux choses qu'on enregistre, où est-ce qu'on va aller les chercher, quels sont les moyens mis en œuvre, par exemple, je sais pas, un hélicoptère pour aller chercher un bruit en forêt amazonienne. Il y avait, comment il s'appelle, Raymond Murray Schaeffer
pour le paysage. Compositeur, oui. Voilà, qui est canadien, compositeur et qui a réfléchi sur le paysage sonore, lui, alors. Tout à fait, en définissant en gros le paysage sonore comme l'environnement dans lequel on baigne. Enfin, sûr que là, on baigne en plein dans un paysage sonore ici, dans cette rue de Sète. Et il a dit que c'était non seulement l'environnement dans lequel on baigne, mais aussi l'environnement créé par des objets mécaniques, notamment la radio, par des bandes magnétiques, etc. Donc la radio elle-même fait partie du paysage sonore de notre paysage sonore. Voilà. Alors qu'est-ce que je pense de comment se situer par rapport à
ça? De la question écologique qui s'impose de plus en plus à la création radiophonique et sur les conditions de production. Et de comment on va aller chercher tel ou tel son, comment...
Oui, oui, oui. J'ai vu la semaine dernière une exposition sonore à Aix-en-Provence au musée des tapisseries de Félix Blum. Alors Félix Blum, qui est un preneur de son, s'est présenté en, je sais pas, il y a à peu près 8-10 écrans. À chaque écran est relié un casque. Mais c'est non seulement de la prise de son, mais une performance. Alors effectivement, c'est-à-dire qu'on le voit se déambuler avec sa perche et son casque. Et par exemple, tout d'un coup, il est dans un parking, commence à pousser les voitures. Bon, On dit qu'est-ce qu'il veut, et puis au bout d'un moment, il en pousse une, succès, l'alarme se déclenche, et c'est ce qu'il voulait enregistrer. Bon, ou bien il va monter en haut d'un clocher pour aller enregistrer le drapeau qui flotte, qui fait clac, 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 comme ça. Et on entend... ce sont des performances assez, assez drôles, souvent. Je pense pas, moi, que ça... Ça me pose un problème, éthique par rapport à l'écologie. Je trouve ça bien d'aller... C'est rien, c'est un micro et c'est un type qui tient un micro. Donc, je sais pas, il faudrait développer ce que dit Juliette Volclair à propos de ce... Comme j'ai pas lu son livre, qu'est-ce qui est dérangeant dans cette situation écologique? Il y avait Murray Schafer, avait aussi, et Bruce Davis qui travaillait avec lui. Et il avait le projet d'une radio en continu. Ça veut dire il branchait son micro n'importe dans une prairie ou au bord d'une rivière, et puis il laissait ça tourner comme ça sans montage, mais on recevait le bruit du monde. Voilà. Enfin, ça me paraît pas. Ou alors il faudrait
Ça me paraît pas proposer.
Oui. Comment on l'organise. Oui.
C'est une chance qu'on puisse rentrer vraiment dans un documentaire, dans la fabrique d'un documentaire. Je pense au voyage en boubou que vous avez réalisé en 2004. Alors, on est dans l'univers du textile et de l'échange commercial, qui est une situation, très, très intéressante du point de vue de la prise de son et de restituer par le son des choses qui sont très visuelles aussi.
Un bout de tissu. Qu'est-ce qu'on fait d'un bout de tissu à la radio?
Et le tactile, bien sûr.
Il y a le tactile. Mais bon, ça, c'est le tactile, c'est ce qu'on voit. Un bout de tissu, la nappe qui est là sur cette table, ne dit rien, ne parle pas. Et pourtant, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est là qu'il y a... donc, ça commence comme ça. Il y avait une exposition à ce moment-là au musée des... C'était le musée des arts... C'était la fin du musée des arts océaniens et africains qui était à la Porte Dorée à Paris. Et il y avait une exposition là-dessus, donc qui était plutôt ethnologique. On est parti là-dedans. Alors, l'idée, c'était effectivement d'animer. Il fallait trouver un moyen pour animer tout ça, pour animer ce tissu, de faire parler les gens. Alors, il y avait un couturier, un créateur, par exemple, de ces tissus. Les choses se sont construites petit à petit, avec comme interlocuteur, donc ce créateur de tissus, des industriels qui travaillaient à Mulhouse. Il se fait qu'à Mulhouse, à ce moment-là aussi, il y avait une exposition sur le boubou. C'était ethnologique. Alors, au musée de Bâle, au musée ethnologique de Bâle, il y a toute une collection de boubous extraordinaires. Et puis Paris. À Paris, il y a quoi? Il y a, parce qu'évidemment, on n'allait pas partir au Mali pour parler du boubou. Donc, à Paris, Rumira, notre Rumira qui est aujourd'hui, elle est complètement explosée, enfin il reste quasiment plus rien. Rumira, donc, après à Outdoor, quoi, il y avait des tas de tailleurs de boubou. Des gens, c'était un peu interlope d'ailleurs, parce que je crois qu'ils faisaient travailler dans l'illégalité totale des gens qui cousaient à la machine et qui assemblaient les tissus et qui faisaient ces boubou. Mais... J'appelle ça le voyage en boubou parce que, d'abord, c'est vrai que ça fait voyager ce genre de tissu, hein. Et du coup, j'ai créé au début un voyage au sens concret. Ça veut dire que on est Rumira et on avance. Et qu'est-ce qu'on fait? On entre dans une boutique. C'était plein de boutiques qui vendaient des tissus, en fait. On entre dans une boutique et on nous dit, voilà, il y a tel ou tel tissu. Ça s'appelle comme ci, comme ça. Ils avaient des noms très, très drôles, ces tissus. Et on dit, on cherche des tailleurs de boubou. Alors, on dit, oui, c'est un peu plus bas dans la rue. Donc, on est là, on ressort. Donc, va et vient entre son intérieur, son extérieur. Et on déambule. Et c'est comme ça, pour accrocher, en fait, l'attention au début de l'émission qui dure donc 1h30. Hein, surpris par la nuit, ça durait 1h30 à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on circule et qu'on chemine et qu'on attire l'attention et que petit à petit on arrive à faire parler ce créateur de boubou et puis à faire parler des femmes, bien sûr, les femmes qui portent les boubous et qui nous expliquent comment elles les mettent sur elles et qu'est-ce que ça représente et quels sont les plus beaux tissus, les tissus qu'on utilise pour les mariages, qui s'appellent le basin, d'autres tissus qui s'appellent le wax, qui sont ceux qu'on connaît plus, c'est, voilà, qui sont, et qui sont fabriqués d'ailleurs en Hollande. Enfin, il y a des choses assez, assez incroyables, mais c'est voilà, c'est ce, cette espèce de collusion entre tous ces éléments qui se rencontrent quand par exemple une femme explique comment c'est difficile au début de mettre le tissu sur la tête, enfin ça peut être le chapeau, enfin c'est pas un chapeau, c'est la coiffe, voilà. Comment c'est difficile, tout d'un coup après on va se retrouver dans le musée ethnographique de Bâle où notre technicien, notre ingénieur du son, a voulu essayer un boubou. Et il y avait un conservateur extraordinaire qui l'a dit, bah, tenez, essayez. Alors, le tissu était, le boubou était immense. Mais il lui dit, vous n'avez pas bien fait. Et en fait, ça, c'était un raccord de montage avec la fille qui, juste avant, expliquait comment il était difficile de placer la coiffe et comment, bah, lui, c'est pareil, il était un peu entoulé dans son grand boubou, mais il était content d'avoir essayé un boubou. Donc, ça, on joue de situations, voilà, c'est encore ce qui advient là. Ouais. L'histoire de l'ingestion qui essaye le boubou, c'était chouette, c'est arrivé comme ça, spontanément et avec.
Et c'est encore l'introduction d'une subjectivité oui. Dans l'espace du réel qui est traité oui. Par son enregistrement. Enfin,
oui, oui. Voilà, par exemple.
Mais ce qui est assez impressionnant, effectivement, dans ce documentaire comme dans d'autres, c'est l'espèce de rapport un peu. Homothétique, disons, c'est pas le bon mot, entre les gestes, en fait, les gestes des personnes qui vous font face et les gestes que vous allez reproduire à la fois dans le temps même de l'enregistrement, c'est-à-dire par l'enregistrement, mais aussi par le montage, toutes les opérations, en fait, de coupe, de prélèvement, de montage, de tous les échos que vous allez organiser et les éléments que vous allez introduire aussi en post-production, en fait, que ce soit des musiques, que ce soit des sons rapportés, que ce soit des... Et du coup, c'est tout l'ensemble de ces gestes, les gestes que vous collectionnez, que vous allez prélever et les gestes que vous opérez par la suite qui sont assez semblables, finalement, par analogie, assez...
Oui, du geste au geste. Quoi.
Du geste au geste,
c'est ça, voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis de ce montage qui, enfin, comme je le disais tout à l'heure, donne vraiment un objet esthétique, quoi, et qui, ouais. Qui fait qu'on sort de la, enfin, on est dans le réel. Il y a rien à faire. Moi, je sors pas du réel, hein. Mais pourtant, on en sort. On en sort. On a créé une autre. Réalité, parce que en fait, ce qui existe après, à travers le montage, bon, je vais pas entrer dans le détail de toutes les opérations de montage et toutes les sortes de sutures qu'on peut utiliser pour faire ce montage. On est justement dans autre chose. Je sais plus ce que j'étais en train de dire que le. On est dans le réel. Et le montage.
Et on s'en sort par l'écriture.
Et enfin, on s'en sort par l'écriture.
Selon d'autres modalités que pour la fiction. Enfin, il y a des outils qui sont les mêmes,
oui,
mais
oui, parce que il y a voilà dans ce qui ressemble par exemple à la fiction, c'est toute cette notion de mise en scène. Mmh. Dans ce qui ressemble aussi à la fiction pour un documentaire, enfin le documentaire tel que je le conçois, mais je pense que beaucoup de gens sont comme moi, c'est le comment dire, c'est un récit qui se suffit à lui-même. C'est un récit qui a un début et une fin. C'est un récit qui n'a pas besoin de notes de bas de page pour l'introduire. C'est comme on va au cinéma, ben, on s'assoit et on est devant la toile et on se prend le film dans la figure. Et là, c'est la même chose. Ce côté-là, il ressemble beaucoup à la fiction, effectivement. Et puis aussi l'histoire de la mise en scène. Il y a toujours une mise en scène, finalement. J'ai toujours cherché à faire des mises en scène pour faire vivre le propos du documentaire.
Mmh. Hein. Et ça se traduit même parfois dans les génériques. C'est Véronique qui est très intéressée aussi par ça, mais c'est LSD ou Les Pieds sur Terre, où il y a effectivement tout l'annonce des personnages, des lieux, des objets qui vont apparaître ouais. sur la scène radiophonique.
Oui, ça c'est dans LSD.
Le
voilà,
documentaire,
voilà.
C'est LSD.
Oui, ouais. Oui. Où il y a effectivement les personnages, les lieux, les actions, enfin, des choses comme ouais. Ça. Oui, oui.
Et je sais pas s'il y a des... En fait, on n'a même pas parlé de durée pour cette émission. On a une heure, d'accord.
Oui, si éventuellement, je parle de la mise en scène. Mettre en scène, c'est donc choisir des situations,
oui,
des mises en situation, des lieux. Même si à la radio on n'y voit rien, il y a quand même des lieux qui sont inspirants. C'est pareil, qui créent une certaine pas intimité, mais on se met dans une espèce de cocon. Par exemple, un lieu. C'est très souvent, les gens me disent à quoi ça sert qu'on aille enregistrer à tel endroit. On n'y voit rien à la radio, de toute façon, c'est bon. Restons au studio. Par exemple, une émission que je faisais sur les fortifications de Paris, cet historien qui était spécialiste des fortifications, je lui dis où est-ce qu'il y en a exactement, où est-ce qu'il en reste encore dans Paris, porte Champéret, mais ça sert à rien. Et on y va, et tout d'un coup, lui, la personne interviewée, parle de manière tout à fait différente quand il est sur le motif. Il est passionné, il dit, vous voyez là, c'est comme ci, comme ça, etc. Et du coup, ça amène à poser d'autres questions quand on n'est pas, par exemple, spécialiste d'un sujet. Quoi.
Ouais, ça n'aurait pas été possible en studio, il fallait l'amener sur le lieu, même si...
Oui.
Parce que c'est le lieu qui fait naître la parole.
Souvent, ouais. Voilà, c'est pas non plus uniquement ça. Mais ouais. Je peux prendre un autre exemple qui est celui d'une émission que je faisais sur Jean-Yves Stein,
ouais.
À propos du cinéma. Et il y a une séquence absolument magique qu'on a vécue avec Jean Rouch. Jean Rouch connaissait très très bien en plus Jean-Yves Stein, on connaît bien son travail, je crois qu'il était très proche de lui. Et avec Jean Rouch, bon, je peux tout à fait prendre Jean Rouch en studio et lui dire qu'est-ce que vous avez à dire de tel film de Jean-Yves Stein, etc. C'est vrai, il le dit. Mais là, j'ai voulu aller à la Cinémathèque. C'était au moment, ça c'était il y a longtemps, hein, parce que c'était au moment où la Cinémathèque était encore, les stocks étaient encore à Chaillot, hein, toute leur collection était encore à Chaillot, et il y avait des tables de montage, et on nous installe sur une table de montage, Rouch et moi, et notre ingé son qui perche par-dessus,
Il avait les mains sur l'outil, mais
la machine, en fait, on laissait tourner. Mais on entendait la machine parce que le film tournait, donc on entendait le ronronnement de tout ce qui pouvait se dire et se passer. On entendait la bande son du film. Hein, c'était Tempestère, c'est 47, je crois. On entend la bande son du film et la chose absolument merveilleuse. C'est comment Rouch, qui connaissait d'abord son film par cœur et son Epstein par cœur, comment il rentre dans le film, comment il nous fait entrer dans le film, comment il nous décrit ce qu'on voit, qui nous raconte en même temps que Epstein avait fait des essais sur le son, justement, sur le son au cinéma pour ce film, et comment il utilise la bande-son à l'envers pour donner des sons absolument étranges, etc. Mais la beauté là de la chose, c'était comment Jean Rouch dialogue avec ce film qui défile là sous nos yeux, on est collé à la table de montage. Il dialogue, et tout d'un coup il y a des descriptions de ce qu'on voit, de la mer, des rochers, etc., qui nous mettent dans des images complètement hyper réalistes. Et puis les dialogues, il fait écho au dialogue qu'il y a. Il y a très peu de dialogues quand même, hein. Mais il fait écho au dialogue. On entend le dialogue dans le film où il le précède un peu et il dit, parce que le Tempestère, c'est l'histoire d'une. Le Tempestère, c'est un homme, une sorte de magicien, qui est capable d'arrêter une tempête en soufflant dans une boule transparente. Et la jeune fiancée va le voir en lui disant « il faut arrêter cette tempête, j'ai peur, mon fiancé est en mer, il va mourir, etc. » Et donc, le Tempestère souffle sur la boule et tout se calme. Et puis, le fiancé revient et lui dit « mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui dit « mais c'était le vent, j'avais peur, la mer, j'avais peur. » Il dit « mais quoi? Regarde, il n'y a rien, tout est calme, la mer est calme. » Et donc, ce dialogue entre les deux est repris par Rouch. Il est dit un peu avant, il est redit un peu après. C'est comme une sorte d'écho. Et là, ça donne une situation radiophonique merveilleuse parce qu'on regarde un film, mais on n'a pas besoin d'images. On se les recrée soi-même. bon voilà, à travers ce genre de situation. Voilà, ça c'est par exemple une mise en scène. Ce que j'ai voulu faire, moi, ça a été le regarder ça sur la table de montage. Après, le reste.
Il y a un motif assez singulier qui dont vous parlez aussi dans le livre, c'est qui a priori est un peu contradictoire, mais c'est le silence.
Et
c'est et c'est la mise en scène du silence aussi, son utilisation. Voilà,
Absolument. Alors oui, l'utilisation du silence, ça peut être. Alors là, c'est par exemple par rapport à une voix. Beaucoup de silence dans une voix. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire des déchets nucléaires. Et je voulais absolument faire intervenir le maire de cette petite commune qui fuyait. Il fuyait complètement, il voulait pas, il était jamais là, il était sur répondeur, on pouvait pas lui donner rendez-vous, etc. Et quand on a été sur place, je me suis dit, il faut absolument que je le coince, celui-là. Et donc, on était là, sur place, j'ai téléphoné, il y avait que son numéro personnel. Bon, je téléphone chez lui à l'heure du déjeuner, pour être sûr de... Et effectivement, il répond. Et je lui dis, écoutez, on est là, est-ce qu'on peut vous voir? Donc, on l'a vu à la mairie. Et là, alors, les silences dans sa voix étaient très, très éloquents parce que ça montrait toute la gêne qu'il avait. C'est pour ça qu'il fuyait les journalistes, parce qu'en fait, il était très gêné par rapport à ça. Il avait été plus ou moins acheté, entre guillemets, par l'ANDRA, qui est l'agence des déchets nucléaires, qui voulait, ils ont payé un bon point à son village. Et donc, il était gêné, il avait un peu honte, il était, il savait pas trop où se mettre. Et là, alors, les silences dans sa voix, on les laisse et on les entend. Et on entend l'horloge qui fait tic-tac dans cette salle de la mairie. Voilà, alors ça, c'est l'utilisation des silences. Il y en a d'autres. D'autres, c'est plus l'histoire de rythme, la lenteur. Moi, j'ai toujours adoré cette lenteur à la radio. Murray Schafer posait toujours la question de savoir si le rôle de la radio, c'était de ralentir ou d'accélérer le rythme de la vie. Et bon, sa conclusion, c'est ralentir. Et bon, moi, personnellement, c'est ce que je pense aussi. C'est ralentir, parce que ralentir, c'est se mettre dans un autre tempo, c'est se mettre dans cette autre réalité que l'on a recréée. Et donc... Écouter le silence quand on est par exemple dans un paysage sonore, le silence a beaucoup d'importance. Et puis le silence, il est jamais vide. Il y a toujours des sons, il y a toujours quelque chose qui vient pas le meubler, mais le peupler. Enfin, hein. Mais c'est voilà, faut pas que je... Donc c'est pour moi c'est très important dans la construction d'un paysage sonore, parce que le paysage m'intéresse beaucoup à la radio. C'est visuel, mais bon, ça m'a beaucoup.
Mais c'est ce qui apparaît aussi dans le silence dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il y a aussi le visuel qui apparaît dans certains silences de la radio, parce que on a été informé, on a quelques éléments sur un lieu, sur des choses qui ont été évoquées, donc par persistance rétinienne, presque, on a encore un effet de visuel qui habite les silences que vous ménagez dans un documentaire.
Oui. Oui. C'est, je crois que c'est le tempo aussi qui.
Le tempo habite, aussi. Hein, ouais.
Qui aide à, justement, à ce que nous puissions habiter, ce silence et à accompagner. Et effectivement, ça, laisser la place à l'imaginaire de se créer soi-même une image. On n'a jamais deux personnes qui écoutent la radio ou 10 personnes qui écoutent la radio ensemble, jamais les mêmes images ne se forment pour ces personnes. C'est ça aussi le pouvoir, la puissance de la radio, hein, du son.
Alors on constate qu'il y a quand même de moins en moins de formats à la radio qui permettent justement de ralentir, comme dit Raymond Murray Schafer, le rythme de la vie contemporaine. Est-ce que tout passe maintenant au travers du podcast, à part effectivement certaines émissions qu'on a évoquées, LSD, Les Pieds sur Terre et d'autres formats
Bah, l'expérience, c'est une heure le dimanche soir, voilà. Oui. Bah, c'est tout, hein.
Oui, il n'y a plus grand-chose.
Il y a beaucoup de flux de direct.
Et comment vous observez l'espèce d'explosion de podcast, enfin il y a de plus en plus.
Oui, il y en a partout. Tout le monde fait du podcast. Ouais. Alors je. En fait, pour moi, le podcast, je me suis dit c'est formidable, les gens vont s'emparer d'un média, parce que fabriquer un podcast, c'est exactement la même chose que de fabriquer un documentaire radiophonique, une émission de radio. On a les mêmes outils, on a les mêmes, voilà, c'est juste le support de diffusion qui est différent. Et je me disais, c'est formidable parce que, avec le podcast, il va y avoir une liberté, un débridement, et j'ai pas tellement l'impression que l'utilisation du podcast donne lieu à cette liberté et ce débridement de création. Ce qu'il y a de bien avec le podcast, c'est qu'il n'y a pas absolument aucune durée imposée. Hein, sur une chaîne de radio, bien sûr, il y a une grille, et la grille vous dit, voilà, ça c'est 50 minutes, ça c'est 1h15, etc., etc. Podcast, c'est 2 minutes, c'est 3 heures, enfin, c'est donc cette grande liberté qui rejoint d'ailleurs ce qu'on a pu connaître il y a quelques années à la radio, puisqu'il y avait des émissions de 3 heures, effectivement. Ouais. Il y avait les émissions qui s'appelaient Le Bon Plaisir. Mais pour répondre précisément sur le podcast, je regrette un peu, mais c'est peut-être, bon, voilà, c'est en ce moment que c'est comme ça et ça va, il faut espérer que ça va se développer, mais je regrette que ce soit beaucoup, simplement des dialogues, des entretiens, et qu'il n'y ait pas tant que ça.
De création.
De création sonore. Ouais. Ouais.
Après, il y a aussi là pour le coup, il y a un gros manque, mais comment justement votre livre en fait partie. Il y a des écrits de plus en plus qui sur le son, sur l'on peut aussi citer le Jean-François Bonnet qui est sorti aux éditions de l'Éclat, les mots et les sons, un archipel sonore. Il y a aussi dans cette très belle nouvelle collection des éditions B42, Mes écoutes de Dominique Petitgrand. Donc là, finalement, ce sont des textes littéraires appuyés sur des pratiques artistiques très diverses, mais en l'occurrence sonores. Je pense aussi à Clara Schumann qui a fait un livre qui s'appelle Zizanie chez Paraguay Press, où elle parle de toutes les voix de femmes qui traverse sa généalogie intime, artistique et de femme, notamment au travers des podcasts justement qu'elle écoute dans le train. Donc on a des initiatives comme ça, on a des livres un peu disparates sur le sujet, mais on manque de textes. Nous, en tant que libraire, on manque de textes sur le son.
Mais c'est bien que vous les réunissiez, tous ces textes, justement. Hein, c'est ouais. que vous les recherchiez. Et que... Bon, alors, voilà, c'est appel à écrire, c'est ça, sur le son.
Oui, tout à fait. Et puis, il faudra un nouveau Pierre Schaeffer, je ne sais pas, qui fasse un nouvel atelier de création sonore.
Alors, il y en a, des ateliers de création sonore. Il y a Fognon Gianova, par exemple, qui fait un très, très beau travail. Ils sont à Arles. Je ne sais pas s'ils vont rester longtemps à Arles encore, mais enfin, ils sont à Arles depuis plus de 30 ans. Et là, ils font un vrai travail de formation, de création sonore. C'est un beau lieu, quoi, pour faire de la création sonore. Il y a. Je sais que je viens de faire partie d'un jury à Radio Campus qui a appel chaque année à des créations sonores pour des jeunes. Radio Campus Paris. Hein.
Oui.
Et voilà. Donc, on a eu à écouter 14. Petite création sonore de 5 minutes à peu près, enfin maximum 5 minutes, c'était leur cahier des charges. Donc il y a des choses qui se font, quoi.
Oui. Non, et puis effectivement, il y a un côté très artisanal de beaucoup de radios locales, dont la radio Muge qui nous enregistre aujourd'hui, et on peut s'en réjouir. Voilà, et on peut espérer qu'effectivement ça se développe de plus en plus. Merci à vous, Simone Dweck.
Merci Alexis, merci Florian, merci
Paul. Oui, merci beaucoup
Florian, merci Alain, et surtout, alors j'aimerais terminer par là, achetez le livre. Alors achetez-le, mais achetez 2 exemplaires. Achetez un exemplaire pour vous et vous offrez le deuxième. Il est vraiment pas cher, c'est 12 €. Il est très beau, il est magnifiquement écrit, donc vraiment achetez-le et achetez tous les livres désirables qui sont présentés par la librairie L'Échappée Belle. Merci à toutes et tous.
Merci Alexis,
merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.